Bonjour Émilie Thiollet.
Bonjour Sandrine.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu pour nos auditeurs?
Oui, alors Émilie Thiollet, quelques mots pour me présenter. Je suis psychologue, j'interviens aujourd'hui donc dans cette émission qui a été baptisée Psychologie pour l'association AP21 pour les auditeurs de Radio Maria. Donc avant d'entrer dans le vif de mon sujet, on parlera de la maladie d'Alzheimer ce matin. Je prends un instant peut-être pour vous présenter notre association et puis cette émission. Donc AP21, c'est une association nationale de psychologues chrétiens catholiques. La première ambition de cette association, c'est de permettre aux psychologues de se réunir dans un soutien fraternel, intellectuel et spirituel. Il s'agit pour nous, d'une part, de développer les compétences riches et rigoureuses de notre pratique professionnelle et d'autre part, que notre foi demeure vivante et intacte au milieu peut-être de certains paradigmes de la psychologie aujourd'hui et puis au milieu aussi des épreuves auxquelles l'exercice professionnel peut nous confronter parfois. L'objet d'AP21, c'est donc aussi de nous soutenir les uns les autres. AP21 qui tire son nom, vous avez peut-être deviné, du livre de l'Apocalypse au chapitre 21 où on trouve cette parole qui nous touche beaucoup en tant que psychologue, hein. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Donc c'est là en tant que psychologue que nous voulons nous placer, hein, que le Seigneur nous place dans sa main auprès de ceux qui nous sont confiés. Donc fort de ce soutien que nous nous portons les uns aux autres. Et depuis qu'elle existe, notre association AP21 a été fondée, si je ne dis pas de bêtises, en 2012. Cette association porte du fruit aussi dans le service. Nous avons souhaité offrir nos compétences au service de l'Église et à la demande de plusieurs évêques de France pour diverses missions. Et puis ici à Radio Maria, du coup, c'est cette mission qui est toute nouvelle, pour tenter de partager avec vos auditeurs un éclairage sur diverses questions autour de la psychologie. Dans cette émission, donc chaque lundi matin, plusieurs psychologues de notre association vont se relayer et développer à chaque fois un sujet de psychologie dont ils sont experts, en ayant le souci de partager avec vous des outils d'application concrets pour la vie quotidienne et en tentant de répondre au mieux à vos éventuelles questions. Je prends donc le relais ce matin de Camille Jalas qui vous avait parlé les deux dernières semaines de la psychologie de nos émotions pour aborder aujourd'hui un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je suis amenée dans mon travail de psychologue à accompagner des malades d'Alzheimer et leurs familles depuis de nombreuses années maintenant. D'abord dans des EHPAD, hein, des établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes, qu'on appelait il n'y a pas si longtemps plus simplement des maisons de retraite. Et puis aussi via une autre association pour laquelle je travaille, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle France Alzheimer. Ce sujet, ce matin, tombe à pic au niveau de la date, puisqu'on est en plein dans la semaine de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. On trouve dans toute la France cette semaine des manifestations, des informations, des conférences sur ce sujet. Pour les auditeurs de la région de Toulon qui est la mienne, le CCAS organise des conférences toute la journée de jeudi au Palais Neptune. Pour ceux qui seraient intéressés pour rencontrer des professionnels ou aller plus loin sur cette question. Donc ce matin, je vais essayer de faire un point complet sur cette maladie d'Alzheimer. D'où vient cette maladie? À partir de quel âge peut-on être atteint? Comment pose-t-on un diagnostic? En quoi consistent les traitements? Où en est-on dans la recherche? Et surtout, comment vit-on au quotidien quand on est atteint d'Alzheimer? C'est ce qu'on va voir donc jusqu'à environ 10 heures, je crois. J'accueillerai volontiers dès maintenant vos questions, vos réactions, vos témoignages. N'hésitez pas à réagir à ce que je peux amener ici. Et donc, je vais essayer de définir avec vous cette maladie d'Alzheimer qui est une maladie dégénérative. C'est-à-dire qu'elle résulte de la mort lente et progressive de certains neurones de notre cerveau, qui se traduit en général par des troubles de la mémoire et du comportement. La maladie d'Alzheimer affecte désormais de près ou de loin toutes les familles françaises. J'ai mis à jour un petit peu mes chiffres en préparant cette émission. L'Organisation mondiale de la santé estime 47 millions de personnes atteintes dans le monde de démence, en sachant que la maladie d'Alzheimer en est la forme la plus courante. C'est donc la première maladie neurodégénérative et chez nous en France, on compte plus de 900 000 malades qui sont diagnostiqués, hein, c'est-à-dire qu'on ne compte pas ceux qui sont pris en charge par leur famille et pas forcément dans ces chiffres. Les estimations de l'Agence française de santé annoncent 3 millions de personnes malades d'ici 2020. Donc je n'évoque pas ces chiffres ce matin pour effrayer, hein, mais simplement pour prendre conscience des enjeux sanitaires majeurs qui sont liés à cette maladie. Il me semble l'importance de bien connaître cette maladie pour pouvoir bien accompagner les personnes qui en sont atteintes. Pour chaque famille, l'arrivée de cette maladie est une épreuve bouleversante. La famille se trouve face à un proche, un parent, un conjoint qui perd progressivement ses repères et son jugement. L'entourage est contraint constamment de s'adapter pour l'aider à accomplir les gestes de la vie quotidienne. Au fur et à mesure que la maladie va gagner du terrain, ce sont en effet les actes les plus simples qui deviennent des opérations complexes, voire impossibles, car le malade n'est plus capable de se souvenir des rituels quotidiens. Dès lors, l'entourage, ceux qu'on appelle maintenant les aidants, n'ont presque plus aucun moment de répit. L'accompagnement de ce proche prend souvent toute la place aux dépens de leur propre vie et au risque de développer eux-mêmes des pathologies parfois graves. On verra qu'il y a des choses à mettre en place pour éviter d'en arriver là, hein, c'est aussi l'objet de mon propos. Mais c'est une réalité, hein, c'est pour ça que je l'évoque. On sait qu'un aidant sur trois risque de mourir avant son proche malade de la maladie d'Alzheimer. On peut se demander sans doute à juste titre si nos sociétés ont bien pris la mesure de ce fléau, ou plutôt les mesures. Hein, donc ces chiffres-là, ça représente 225 000 nouveaux cas chaque année. Et c'est, voilà, c'est un chiffre qui est assez impressionnant. La maladie d'Alzheimer doit donc être une des premières préoccupations de santé. Il y a plus de 110 ans qu'on a découvert cette maladie. Hein, elle a été décrite par un médecin allemand qui s'appelle Alois Alzheimer, donc qui a donné son nom, la description de cette maladie. Il va décrire pour la première fois les symptômes et puis observer, on est en 1906, hein, après autopsie, les caractéristiques de la maladie qui reste, voilà, après 110 ans aujourd'hui, par bien des aspects, un mystère. On sait aujourd'hui plutôt bien comment elle fonctionne. On verra, je vais essayer de vous expliquer ça aussi ce matin. Mais pas très bien pourquoi. Hein, les questions de sa naissance, de son évolution, ses manifestations, il reste encore beaucoup d'inconnus qui perdurent et qui imposent aux personnes concernées, à leur famille, mais aussi aux professionnels d'avancer souvent à tâtons et dans la pénombre. Alors, quand consulter? Comment annoncer la maladie dont on est incapable de prédire l'évolution? Comment donner de l'espoir alors qu'on sait qu'il n'y a actuellement pas de traitement curatif? Quand est-ce qu'on prend la décision de placer le malade en institution? C'est à toutes ces questions que l'on est confronté lorsque la maladie arrive dans notre vie. Très vite, au contact des personnes qui vivent au quotidien dans cette maladie d'Alzheimer, on comprend que chaque situation appelle une réponse individuelle, adaptée à son infinie complexité. Cette maladie dite de la mémoire force finalement chacun à se délester de ce qu'il sait ou croit savoir, de tout ce qu'il a appris, pour essayer de trouver les mots, les gestes qui permettront à l'autre, présent à présent malade, de ne pas s'éloigner trop vite. Donc, pour revenir aux manifestations biologiques de cette maladie, hein, on sait que voilà, les neurones vont disparaître progressivement. Ces neurones qui servent à programmer un certain nombre d'actions. En disparaissant, ils entraînent une altération de ce qu'on appelle les facultés cognitives, hein, c'est-à-dire la mémoire, le langage, les capacités de raisonnement. Les lésions vont s'étendre dans tout le cortex et vont causer des troubles qui vont réduire progressivement l'autonomie de la personne. La maladie d'Alzheimer apparaît plus souvent chez les personnes âgées, mais elle n'est pas une conséquence normale du vieillissement. On associe souvent cette maladie à la perte de mémoire, car ce sont effectivement les neurones localisés dans la région de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone qui est installée très profondément à l'intérieur du cerveau. On l'appelle comme ça parce qu'elle ressemble étrangement au petit animal marin. Et donc c'est cet endroit qui est le siège de la mémoire et en fait c'est cette partie qui va être atteinte en tout premier dans la maladie. Mais effectivement c'est là où il faut être attentif au fait qu'il ne s'agit pas seulement de mémoire hein, dans la maladie d'Alzheimer, simplement ce seront les premiers signes. Et donc petit à petit d'autres zones du cerveau vont être touchées et menées à la disparition progressive des capacités d'orientation dans le temps et dans l'espace, des troubles aussi de la reconnaissance des objets et des personnes, de l'utilisation du langage, de la capacité de réflexion, de raisonnement. Cette maladie donc résulte d'un processus pathologique spécifique qui entraîne le développement de deux types de lésions dans le cerveau. Donc j'essaye là de pas trop jargonner, mais c'est important, je pense, de bien connaître le fonctionnement de la maladie. En fait, il va y avoir deux types de lésions dans le cerveau. Donc je vais avoir deux gros mots scientifiques, hein, j'essaye de pas en faire trop. D'abord, ce qu'on appelle les dégénérescences neurofibrillaires. Il s'agit en fait de l'apparition dans les neurones d'anomalies d'une protéine qui s'appelle la protéine Tau. Cette protéine qui est présente naturellement dans un cerveau sain, dans notre cerveau à tous, mais qui va donc dégénérer dans ces neurones-là. Et c'est-à-dire qu'au lieu de favoriser l'information, ce qu'elle fait habituellement, elle va se distordre dans des rails qui normalement favorisent la conduction. Les distorsions vont en fait ralentir le passage des informations et petit à petit aussi l'empêcher. Donc d'abord, ces dégénérescences neurofibrillaires. Et puis peut-être l'autre lésion qui est peut-être mieux connue, c'est ce qu'on appelle les plaques amyloïdes ou plaques séniles. Il s'agit en fait de dépôts qui vont être donc, tout à l'heure on parlait vraiment de à l'intérieur des neurones. Là ça va être entre les neurones, dans les zones interstitielles. C'est une autre protéine là qui est concernée, qui s'appelle la protéine bêta-amyloïde. Cette protéine, naturellement, se coupe en deux pour faire circuler les neurones. En fait, naturellement, elle est trop grosse. Donc, quand tout va bien, elle est coupée en deux pour pouvoir passer dans les zones où elle doit favoriser la conduction des informations. Dans la maladie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va être coupée, et on ne sait pas pourquoi, elle va se couper non pas en deux au milieu, mais de manière anarchique. Et donc, on va se retrouver avec une protéine toute petite et une trop grosse qui ne va pas pouvoir passer dans l'espace cellulaire. Et cette partie trop grosse donc qui va résulter, c'est elle qui va fabriquer ces dépôts, ce qu'on appelle les plaques séniles, les plaques amyloïdes, qui vont venir en fait comme des déchets s'amonceler entre les neurones. Et petit à petit, en fait, ce sont elles qui vont étouffer et conduire à la mort neuronale. Hein, donc, en toute fin de maladie, après plusieurs années, on va avoir des zones du cerveau qui sont vraiment asphyxiées. Hein. Ces lésions donc, vont envahir progressivement différentes zones du cortex cérébral. Hein. D'abord les zones autour de l'hippocampe, de la mémoire, et puis aussi d'autres zones. Donc elles vont être longtemps silencieuses, parce qu'au départ, elles vont simplement ralentir. C'est-à-dire que bah, pour vous rappeler une information, ça va prendre plus de temps, mais elles sont toujours stockées. Et puis, il arrivera un moment où il y aura effectivement plus du tout de passage possible. Donc même si chaque cas est spécifique, si toutes les personnes ne vont pas être affectées au même rythme et de la même manière, on peut néanmoins dégager schématiquement plusieurs étapes d'évolution de la maladie. Dans la première phase de la maladie, donc cet hippocampe va diminuer en volume. Les neurones de la zone s'occupant de faire le lien entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme sont d'abord partiellement endommagés. La personne voit donc ses capacités de mémorisation légèrement diminuées. Elle a au départ des oublis bénins de noms, d'événements récents et présente des difficultés surtout pour acquérir de nouvelles informations. Hein, souvent, ce qui est difficile, c'est simplement de se souvenir ce qu'on a mangé à midi. C'est vraiment les informations les plus proches qui vont... La capacité de stockage de nouvelles informations va être grandement perturbée. Et avec le temps, donc, plusieurs zones du cerveau sont à leur tour endommagées dans le cortex qu'on appelle associatif, pariétal et occipital. Et là, ça va engendrer des troubles des gestes, des troubles du langage, des troubles de la reconnaissance. La maladie va avancer, les lésions cérébrales progresser et au bout d'un moment, la récupération ne pourra quasiment plus se faire. La personne oublie alors les événements et les informations de son passé. Ce qu'on sait quand même, c'est que les informations du passé lointain, la mémoire à long terme, est conservée longtemps. Donc on se souvient très longtemps de son enfance, du début de la vie adulte. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir aussi des confusions. Hein. Comme la reconnaissance est troublée, on observe souvent des personnes qui vont donner le nom de leur frère à leur fils. Parce que bon, il y a peut-être certaines ressemblances familiales, mais surtout il y a la notion de l'âge. C'est-à-dire que la personne en fait va être plongée souvent dans une période de souvenirs qui peut-être date d'il y a 40 ans ou 50 ans. Hein, donc quand je vois ma femme aujourd'hui, par exemple, je vois ça souvent, des messieurs en maison de retraite qui, en voyant leur femme, donnent le prénom de leur fille ou le prénom de leur mère. En fait, ils ont du mal à imaginer que leur femme a aujourd'hui 85 ans. Parce que peut-être que dans leur esprit aujourd'hui, ils ont en fait à nouveau 35, 40 ans. C'est là où voilà, on va arriver tout doucement à comment est-ce qu'on va, une fois qu'on connaît bien la symptomatologie, comment est-ce qu'on va réagir et accompagner les personnes face à leurs réactions. Est-ce qu'on les ramène dans notre réalité en disant mais non, je suis ton épouse, je ne suis pas ta mère, ou bien est-ce qu'on va simplement accueillir ça et puis prendre conscience que dans l'univers de l'actualité du malade, peut-être que voilà, l'endroit où il se trouve et les personnes autour de lui sont perturbées. Ça n'empêche pas forcément d'être ensemble. Hein. C'est ce qu'on verra ensemble si vous voulez réagir à ça et voir un petit peu comment vous pouvez réagir avec vos proches à ce genre de questions, en sachant bien la difficulté, la douleur que ça peut représenter aussi de ne pas être reconnu tout de suite. Donc je réponds à une question que j'entends souvent. Là dernièrement, pour l'association France Alzheimer, on accueillait dans les forums des associations des personnes qui venaient nous rencontrer un petit peu au hasard. Et il y a souvent des personnes, à partir de la soixantaine, qui viennent dire « j'ai souvent des troubles de mémoire, je m'inquiète, est-ce que la maladie d'Alzheimer me concerne ?» Donc je prends bien soin de préciser que oublier occasionnellement un rendez-vous, le nom d'un collègue, un numéro de téléphone, tous ces oublis sont généralement banals. Hein, on comprend bien que dans la maladie d'Alzheimer, c'est la conjonction de plusieurs troubles. Et le fait qu'ils aient une répercussion significative dans la vie de la personne qui doit éveiller l'attention de la personne concernée elle-même et de son entourage. On a parlé des problèmes de langage, de la difficulté à exécuter des tâches familières, c'est-à-dire vous, par exemple, vous avez fait toute votre vie une super mousse au chocolat et puis tout à coup, vous savez plus comment vous organiser pour le faire. Là, il y a peut-être une inquiétude à avoir quand des procédures qui ont été vraiment très simples et habituelles sont perturbées tout à coup. Des troubles de l'attention importants aussi, et puis une désorientation dans l'espace et dans le temps. C'est la conjonction de tout ça qui va alerter. Alors, bien souvent, on va voir ces troubles-là, on va se douter que peut-être maman commence à avoir des difficultés. On va imaginer que peut-être cette maladie d'Alzheimer commence à poindre. Et on va souvent laisser du temps avant d'aller rencontrer soit le médecin traitant, soit un neurologue. Parce que même si on peut s'y être préparé à l'éventualité de cette maladie, l'annonce diagnostique est presque toujours un choc traumatique. C'est un choc inévitable. Le moment du diagnostic, il va souvent être suivies alternativement par des périodes de colère, de découragement, d'injustice et de tristesse. Autant d'étapes émotionnelles hein, que vous avez. Je vous invite à réécouter Camille sur le retentissement de ces émotions-là. Donc on va traverser avec la personne malade et sa famille ces étapes émotionnelles pour aussi les surmonter et puis petit à petit apprendre à vivre avec cette maladie. Les répercussions psychologiques vont être nombreuses et vont concerner à la fois la personne malade et son entourage. Il s'agit pour chacun de vivre, de s'adapter à un bouleversement majeur. Différentes étapes vers une forme d'acceptation de la maladie sont plus ou moins longues et ne sont pas linéaires. On peut parfois revenir en arrière, faire des allers-retours entre ces émotions. La personne malade, la famille, les amis aussi, voilà, l'entourage proche peuvent ne pas tous avancer au même rythme. Et puis le caractère évolutif, hein, on parle souvent de stades dans la maladie, voilà, ils vont impliquer régulièrement de nouvelles pertes de capacités. Et c'est donc un parcours qui va être semé d'embûches et rarement linéaire. Ce qui va se passer souvent au moment du diagnostic, c'est qu'il y a une période de déni. Hein, vous avez vu la semaine dernière que le déni, c'est un mécanisme de défense psychique qu'on ne contrôle pas. Il peut parfois être total. La personne malade et l'entourage vont nier complètement la réalité. Mais moi, ce que j'observe dans ma pratique, c'est que le plus souvent, il y a effectivement une forme de déni qui va être seulement partielle. C'est-à-dire que les personnes vont être capables de raisonner autour de la maladie, mais sur certains points, il va y avoir des petits moments où on fait un petit peu comme si la maladie n'existait pas. Et on fait un peu des allées et venues, peut-être pour réaliser en douceur que l'onde de choc de ce diagnostic ne soit pas trop violente. Hein, ce déni, c'est un mécanisme qui protège le psychisme. Et puis, voilà, on va traverser ça. Il y a souvent des manifestations de colère aussi. Hein. Souvent, avant de pouvoir totalement envisager la réalité de la maladie, la personne malade, ses proches vont traverser une étape de colère contre ce qui arrive. C'est une façon aussi qu'on a de lutter contre une réalité douloureuse. Une étape souvent où aussi on cherche un responsable. C'est à cette période-là qu'on va observer des conflits, voire des ruptures au sein du groupe familial. Cette colère, bon, aussi, elle n'est pas forcément tournée dans le groupe familial, généralement, et c'est peut-être plus sain, elle va s'exprimer contre le corps médical. Hein, on va observer souvent des incompréhensions, des manques d'écoute qui font que ben voilà, c'est plus facile d'en vouloir au médecin qui a pas pris les choses à l'heure et finalement bon après il faut pas que ça dure je pense mais ça permet aussi d'avoir un petit peu un sujet sur quoi se défouler un petit moment pour digérer ce qui se passe. Peu à peu ce qui va se passer aussi c'est que voilà, on va intégrer les choses, on va commencer à s'organiser, à comprendre les fonctionnements, à demander de l'aide aussi, à pas rester seul. Et puis on va réaliser que l'autre est vraiment malade. Et il y a souvent chez l'entourage, les familles, un sentiment de culpabilité. La colère est passée, qui fait suite donc à cette prise de conscience de la maladie. C'est un temps aussi où les événements donc, qui se sont passés avant le diagnostic vont être du coup éclairés d'un autre sens. En comprenant mieux les incohérences, les comportements antérieurs de la personne malade, le proche revient aussi sur ses propres attitudes. Il se reproche parfois d'avoir mal agi, de ne pas avoir compris. Il peut y avoir à ce moment-là un sentiment très fort de culpabilité. Hein. Donc là, c'est important aussi de pouvoir être entendu par l'entourage amical et aussi peut-être par des professionnels pour apaiser cette culpabilité et voilà bien faire prendre conscience que on pouvait pas savoir et qu'on a mal réagi à un moment donné. Ce qui est important, ça va être comment on réagit maintenant. Voilà, on sait que voilà dans ces étapes aussi qui vont mener vers l'acceptation, il y aura aussi souvent une étape accompagnée de dépression. Donc il ne s'agit pas ici de dépression au sens pathologique du terme, hein, il s'agit simplement d'un moment de tristesse Une étape souvent difficile, mais qui est nécessaire et même saine pour arriver à prendre les choses en main et à réaliser vraiment ce qui se passe. C'est normal d'être triste, de se sentir résigné. La personne malade, ses proches peuvent avoir envie de pleurer, avoir besoin de parler de ce qui leur arrive, de comprendre, de donner du sens à cette épreuve. Ce qui est important ici, à mon sens, c'est de ne pas trop se replier à ce moment-là, justement de pouvoir en parler, d'oser. Voilà, c'est aussi pour ça qu'avec France Alzheimer, on a à cœur de parler de cette maladie beaucoup pour qu'elle ne soit pas taboue. Il me semble que depuis quelques années, on en parle quand même plus facilement. Mais voilà, si on en parle autour de soi, on va aussi générer des soutiens, hein, plutôt que de rester seul avec sa détresse. Et donc cette dépression, quand elle est saine et qu'elle amène voilà, finalement à l'ouverture à l'autre, elle peut mener à cette dernière étape que tout le monde n'atteint pas forcément, hein. Donc on appelle l'acceptation. C'est un terme qui peut parfois porter à confusion, en tout cas, qui vient souvent heurter les proches. Souvent, parce que voilà, quand je fais la formation des aidants, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup, l'acceptation. Parce qu'elle peut être entendue comme un renoncement. Il s'agit de pouvoir reconnaître que la maladie est là, qu'il n'est plus possible de faire comme avant et qu'on n'a pas d'autre choix que de faire avec elle. Hein, ça ne veut pas dire que c'est pas difficile d'accepter. Hein. Mais en tout cas, on va la regarder en face, cette maladie-là. Et voilà, quand on arrive à une forme d'acceptation, l'entourage va pouvoir s'adapter, mieux s'organiser pour accompagner la personne malade. La peine, les difficultés sont toujours là, mais on peut y faire face avec toutes ses capacités de jugement et de raisonnement. Hein. C'est là où on va pouvoir commencer à contacter une infirmière libérale pour des soins à domicile, peut-être voilà, une aide ménagère, ce qu'on appelle les AVS, les auxiliaires de vie sociale, qui vont venir accompagner le quotidien de la personne, peut-être aussi s'ouvrir à des associations de famille, en parler à ses voisins. Et amener comme ça une aide autour de soi. Le retentissement psychologique de la maladie est quand même souvent violent, hein, que ce soit pour la personne elle-même, pour son aidant le plus proche et toute la famille de manière globale. Hein. Quand une personne est malade, c'est tout le groupe familial qui souffre. Et pour atteindre au mieux cette étape d'acceptation, il ne faut donc pas hésiter à demander le soutien d'un tiers professionnel. Voilà, d'un psychologue, de votre médecin traitant, voilà, souvent l'infirmière qui est là tous les jours tient bien ce rôle d'accompagnement. Il s'agit voilà, de pouvoir partager pour être mieux accompagné. Voilà, on revient peut-être sur les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. En fait, voilà, si vous êtes en questionnement, peut-être par rapport à un proche ou un voisin, la France Alzheimer a décrit en fait 10 points pour 10 signes, en tout cas, d'alerte qui peuvent, voilà, peut-être faire qu'il serait intéressant d'aller consulter. On a parlé donc en premier point de ces pertes de mémoire. Hein, la personne oublie de plus en plus souvent des événements récents touchant à sa vie personnelle et son entourage, mais elle va garder une très bonne mémoire, on disait, des souvenirs anciens. Ce qui va alerter en deuxième point, c'est une difficulté à accomplir des tâches quotidiennes. Hein. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de la mousse au chocolat. Ça peut être aussi gérer les dates. Hein. Souvent, c'est l'administratif qui va alerter. On savait bien ranger ses papiers jusqu'à présent, et puis tout à coup, ça devient un peu confus. Voilà, on peut confondre des dates, avoir du mal à gérer la péremption des aliments dans le frigo. Voilà, ce genre de difficultés qui sont vraiment de l'ordre du quotidien, la préparation des repas, des choses comme celles-là. C'est intéressant de lire le livre de Colette Romanoff. Peut-être vous la connaissez-vous, c'est la maman d'Anne Roumanoff, l'humoriste. Elle a écrit un livre où elle parle de l'accompagnement de son mari qui a souffert donc de cette maladie et comment elle a découvert par elle-même, en fait, hein, de façon empirique, voilà, comment s'adapter, comment communiquer. Et elle explique donc les premiers signes où elle a commencé à se dire, tiens, il se passe quelque chose de pas normal, c'est quand elle a vu son mari, en faisant les comptes, qui ne savait plus faire une addition. Et donc c'est lui, hein, qui gérait ce genre de choses. Elle s'est dit, ouh là 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 là, il serait peut-être bon qu'on aille voir le médecin traitant, là. Petit à petit, donc le troisième point, on va aussi voir des problèmes dans le langage, c'est-à-dire qu'on va parler de manque du mot. La personne ne retrouve plus des mots très simples, des mots usuels, et puis elle va parfois remplacer des mots par d'autres. Hein, là aussi, si ça arrive souvent, c'est une chose qui doit alerter. Quatrième point, donc on a parlé de désorientation dans le temps et dans l'espace. Le sens de l'orientation de la personne diminue. Elle peut parfois se perdre, même dans des endroits très familiers. Et puis, voilà, par rapport à la désorientation dans le temps, on peut aussi confondre les saisons ou les moments dans la journée. On ne sait plus si on est le matin, l'après-midi. Là, c'est aussi quelque chose qui doit alerter. Le cinquième point, ce sont les difficultés dans les raisonnements abstraits. La personne donc va rencontrer des difficultés pour effectuer. Donc on a parlé de ça, des formalités administratives pour gérer les finances, particulièrement depuis le changement de monnaie pour les personnes âgées. Hein. Depuis qu'on est passé à l'euro, ça a compliqué pour tout le monde. Mais alors quand on est touché par la maladie, c'est presque impossible. On va avoir des difficultés simplement à rédiger un chèque, hein, à faire les choses dans l'ordre, à appeler quelqu'un au téléphone, à simplement se servir de son appareil. On est aussi confronté au fait qu'il faut parfois utiliser des appareils nouveaux, hein, dans l'époque actuelle. Tout ça va être très compliqué quand on est touché par cette maladie. Le sixième point, ce qui doit alerter, c'est aussi une perte récurrente d'objets. La personne a tendance à placer des objets dans des endroits parfois insolites, hein, de mettre sa montre dans le four, les pantoufles au réfrigérateur. Voilà, quand il y a un petit peu des bizarreries où on prend le frigo pour le placard, c'est aussi un moment où il faut se poser quelques questions. Hein. Le septième point, une altération du jugement. La personne va avoir du mal à évaluer les situations. C'est-à-dire, elle va porter des vêtements qui ne sont pas adaptés aux saisons, hein, des vêtements très chauds en été. Elle va faire des achats démesurés de nourriture ou acheter toujours la même chose. Voilà, il y a une capacité à gérer son jugement qui est difficile. C'est là aussi, on doit être alerté sur le fait que cette altération du jugement, elle met la personne dans une situation de fragilité importante. C'est important aussi que les gens soient protégés. Huitième point, une modification du comportement. Hein, je souligne le terme modification. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment des changements surprenants. On va constater l'apparition, par exemple, tout à coup d'une tendance dépressive ou des manifestations fortes d'anxiété, d'irritabilité, des agitations, des troubles du sommeil. En neuvième point, on parle de perte de motivation. La motivation tombe pour toutes les activités, y compris celles qui pouvaient être une passion auparavant. Je pense à un monsieur qui était tout à fait passionné de collection de timbres et qu'elle a complètement délaissé cette activité-là. Ça a alerté donc son épouse et en fait, elle s'est rendue compte qu'il avait mis ça de côté parce qu'il n'arrivait plus à les classer de manière cohérente. Il s'irritait très vite et voilà, le fait aussi de ne plus s'adonner à sa passion créait un vécu dépressif et il savait pas forcément comment en parler à son entourage. Donc cette perte de motivation, hein, en neuvième point. Et puis le dixième point, parmi les signes qui doivent nous alerter, c'est un changement dans la personnalité. La personne peut devenir tout à coup différente de ce qu'elle était. Elle perd son caractère propre. Il peut y avoir des manifestations de jalousie, des idées parfaitement obsessionnelles, de préjudice parfois. On parle souvent, on évoque la paranoïa. Et puis ou parfois une exubérance excessive ou voilà une façon de parler qui se transforme. parfois même un vocabulaire fleuri chez des gens qui étaient parfaitement bien élevés auparavant. Ce genre de changements, surtout quand ce sont des changements brutaux, doivent alerter et c'est important de ne pas tarder à consulter. Dans ces cas-là, voilà, rencontrer rapidement au moins son médecin traitant et puis à se rendre près de chez soi dans ce qu'on appelle les consultations mémoire, qu'on trouve souvent dans les services de neurologie partout sur le territoire. Hein, donc on voit ces différents symptômes. J'en passe aussi par l'origine des facteurs. Hein. Je disais tout à l'heure qu'on ne sait pas forcément très bien d'où vient cette maladie. On sait donc comment elle fonctionne. Hein. On a vu les difficultés de ces protéines dans le cerveau qui ne fonctionnent plus normalement. Parmi les facteurs de risque, hein, on va aussi mettre en avant l'âge. C'est, on peut dire encore aujourd'hui, une maladie qui concerne les personnes âgées. Mais il y arrive que quand même on ait des malades jeunes. Alors pareil, on ne sait pas forcément d'où ça vient et on va souvent tarder à poser un diagnostic parce qu'on n'imagine pas forcément qu'une personne de 40 ans puisse être touchée par cette maladie-là. Souvent, ces personnes-là vont souvent passer par les réseaux de soins psychiatriques. Et puis on va s'apercevoir en fait que ben, cette maladie peut intervenir. Personnellement, j'ai rencontré une fois un malade qui avait 36 ans. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Généralement, la maladie progresse vite dans les cas des malades jeunes. Mais ils sont quand même assez rares. Voilà. Généralement, on est touché autour de 80 ans. Il peut y avoir souvent les premiers signes au moment du passage à la retraite. Le sexe est aussi un facteur de risque, hein. Le risque d'apparition de la maladie est plus important chez les femmes, surtout après 80 ans. On alerte aussi sur le facteur de risque vasculaire. On pense que voilà, les dernières études montrent que la maladie d'Alzheimer est liée à des difficultés vasculaires, à des problèmes de diabète qui auraient été mal pris en charge. À des problèmes peut-être d'hypertension aussi. Donc c'est important de surveiller ce genre de pathologie quand on en est atteint, parce que s'ils sont mal pris en charge, ça peut être un facteur de risque de développer plus tard cette maladie. Voilà, les antécédents familiaux. Alors ça, c'est une question aussi qui revient souvent. Est-ce que la maladie d'Alzheimer est héréditaire? En fait, c'est très rare. C'est seulement 1% des cas. Hein, où on trouve des formes familiales, il y a plusieurs gènes qui ont été identifiés, mis en cause, mais en fait les formes familiales sont vraiment très rares.
Émilie, nous avons une question. Nous avons Christiane en ligne.
Bonjour Christiane.
Bonjour madame. Moi je pensais, enfin, on parle beaucoup aussi des intestins qui sont mal soignés depuis 200 ans qu'on ne s'en occupe plus, et ça joue beaucoup aussi sur le cerveau. Et je pense que depuis quelques années, on a beaucoup de cancers, y compris chez des enfants, chez des bébés. Il y a quand même un problème aussi avec la nutrition et tout notre environnement qui joue là-dessus, parce qu'on n'a jamais eu autant de maladies que ce qu'on en a maintenant.
Oui, alors je vous remercie pour effectivement cette réaction. Effectivement, il y a des études récentes qui se posent la question d'un germe intestinal qui viendrait peut-être participer de cette maladie. Je rebondis sur ce que vous dites là aussi pour dire que depuis 10 ans, on a constaté quand même une baisse de 20% des nouveaux cas par rapport à ce qu'on pouvait voir. C'est-à-dire qu'il y a, même si les chiffres sont toujours impressionnants de nombre de nouveaux cas, il y en a moins qu'il y a 10 ans. On pense justement du fait d'une meilleure alimentation, voilà, d'une frange de la population, en tout cas dans nos pays, qui sont attentifs à se nourrir peut-être plus sainement, à avoir de l'exercice physique, voilà aussi à stimuler sa mémoire, voilà faire des sudoku, lire beaucoup, voilà s'intéresser, faire marcher son cerveau aussi. Mais effectivement, l'hygiène de vie participe de le développement de la maladie d'Alzheimer et certainement d'autres problèmes de santé.
Oui, et le fait que, bon, c'est toujours la même chose, si on veut avoir une, des alimentations qui sont saines, il faut les acheter dans des endroits où on sait que c'est quand même le plus sain possible, mais c'est beaucoup, c'est cher, et quand on n'a pas les moyens, ben, on est obligé de se rejeter sur une nourriture qui n'est pas forcément bonne, parce qu'autrement, on n'y arrive pas du tout.
Ouais, il y a effectivement un facteur social qui est à prendre en compte.
Ceux qui peuvent se soigner correctement, même avec des plantes et tout qui ne sont pas remboursées, alors qu'en fait c'est très bon, et obligés de passer par des médicaments qu'on nous trafique et qu'on nous rend toujours plus malades. Donc il y a toujours quand même dans la santé les favorisés et les autres, quoi.
C'est ça. Voilà. Après, chacun à sa mesure, effectivement, c'est important de prendre le temps de cuisiner peut-être le mieux possible, d'éviter certaines choses trop industrielles.
Donc, moi, je sais que je fais toujours le plus simple possible, mais j'essaie d'acheter dans des endroits où je sais qu'ils sont pas trop, qu'ils ont pris les produits dans un bon endroit, mais on ne sait jamais. Puis comme je vous dis, on n'a pas forcément les moyens. Même si on veut faire attention, on est obligé de manger quand même, quoi.
Certes.
Enfin, c'est la société qui veut ça.
Mais c'est une bonne chose d'y être attentif, déjà. On voit sur la population déjà des effets, en fait.
Oui, il y a beaucoup de personnes qui commencent maintenant à se dire, mais là, on est en train vraiment de nous mettre paix avec tous ces supermarchés qui achètent. Moi, l'autre fois, j'ai demandé des œufs bio, et en fait, ils sont bien emballés en France, pas très loin de chez moi, mais ils viennent d'Italie. Alors, on ne sait pas s'ils sont vraiment bio ou pas. Parce que c'est une marque, quand je pouvais encore faire mes courses, où on avait des œufs normaux et des œufs bio, mais de la même maison.
Eh oui, les réglementations ne sont pas forcément les mêmes selon les... En Europe, c'est quand même bien réglé. Si ça vient d'Italie, vous pouvez être rassuré, je pense.
Bah, je ne sais pas, parce que moi, j'ai quand même entendu dire qu'en Italie, bon, je ne dis pas que c'est partout pareil, mais ils ont quand même fait pousser des arbres fruitiers sur une ancienne déchetterie. Et en Espagne, ils ont encore le droit de mettre des produits toxiques.
Eh oui.
Donc, c'est parti de l'Europe, et donc, vous voyez, alors j'essaie d'acheter français. Bon, c'est pareil, il y a aussi des endroits qui ne sont pas... c'est comme partout. Mais enfin, c'est pour dire que maintenant, on n'a pas vraiment beaucoup de choix, parce qu'il faut lire toutes les petites étiquettes, tous les trucs, et puis il faut bientôt une loupe pour pouvoir lire. Et c'est compliqué, quoi, d'arriver à acheter quelque chose de français et qui soit bon, quoi. Vous voyez, c'est mis dans les paquets en France, mais ça vient d'ailleurs, donc faut que les gens, on essaie aussi de faire attention, de voir si ça a été élevé en France ou transformé en France. Il y a tout ça qu'il faut voir. Ça devient compliqué, hein, maintenant.
Oui, mais c'est une bonne chose si vous y êtes attentif pour vous-même, voilà, de prendre le temps de cuisiner et peut-être de faire plus simple, hein, de regarder peut-être simplement au plus près de chez soi.
Bon, en tout cas, merci Christiane, pour votre question. À bientôt, au revoir. Alors, nous avons encore une autre question d'une autre auditrice, Véronique. Vous êtes toujours là, Véronique ?
Oui, je suis là.
Bonjour, Véronique.
Bonjour, madame. Oui, je peux parler, oui.
Oui, je vous écoute.
Ah, ça va. Oui, voilà, je voulais vous demander, ma belle-mère, Alzheimer, moi, je l'ai toujours connue comme ça. Quasi, parce que je me suis mariée très tard, donc elle avait déjà il y a 8-9 ans, donc voilà. Et maintenant, elle est depuis le mois de juin, elle est placée, donc et évidemment, elle restera là-bas, dans le home. Et alors, je voulais savoir qui avait raison, parce que mon mari, lui, quand elle dit certaines choses, il ne dit rien, ou il dit c'est le docteur a décidé. Et moi, par contre, parce que voilà, elle ne sait pas qu'elle est placée pour de bon. Elle espère, parfois, elle le dit, hein, je veux partir d'ici, je veux rentrer, elle ne sait pas que son appartement, en fait, elle ne l'a plus, parce qu'elle louait. Donc, on a dit, voilà, on l'a vidé, quoi. Ça, elle ne sait pas non plus. Et donc, elle ne sait pas qu'elle restera dans le home, tout pour toujours. Enfin, oui. Voilà. Donc, et alors, quand elle pose ces questions, moi, je me tais, bien sûr, parce que je ne vais pas contredire mon mari, mais moi-même, spontanément, je serais plutôt d'avis de lui dire la vérité. Parce que moi, je suis moi-même handicapée, donc comme je ne supporte pas qu'on ne me dise pas la vérité à moi, donc je la lui dirai à moi. Eh bien, voilà, tu ne retourneras plus chez toi, tu es en appartement, eh bien, tu ne l'as plus, on a dû le rendre, enfin voilà, on a dû le libérer. Et mon mari, non. Et la plupart des gens disent d'ailleurs que c'est mon mari qui a raison, qu'il vaut mieux ne rien dire ou attendre. Ou par exemple, il a dit, je te le dirai peut-être. Il m'a dit, mais avec l'infirmière et le docteur du home. Bon, voilà, je ne sais pas. Alors moi, je me tais. Hein, je vais pas faire d'esplendre, évidemment. Mais je ne sais pas ce qui est mieux, quelque part.
Oui, alors, merci.
Moi, je suis pour la vérité, toujours. J'ai toujours été comme ça pour à peu près tout, d'ailleurs, dans presque toutes les situations.
Et oui,
bon, ouais. Voilà, la vérité n'est pas toujours bonne à dire, et enfin, oui, voilà.
C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de ce qu'implique la maladie pour... c'est donc la maman de votre mari, hein.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc c'est une question, je pense, qui va intéresser beaucoup de personnes qui sont touchées, parce que quand surtout au début du placement en maison de retraite, on a toujours cette difficulté là. Donc effectivement, on veut pas mentir et en même temps on veut pas heurter.
Voilà,
donc je pense que
ça,
si votre mari ne lui dit pas, c'est qu'il a il doit craindre certainement sa réaction. Hein.
C'est ça, oui, mais c'est ça.
Voilà.
Il craint sa réaction et il craint lui peut-être aussi de ne pas savoir que faire, alors lui, au moment où elle réagira, vous voyez.
Et oui, forcément. Après, bon, je pense que ce qu'il y a à entendre...
Comment lui va réagir.
Ce qu'il y a à entendre...
Il sera maîtrisé, voilà, c'est ça. Alors moi, je dis, je veux bien t'aider, je veux bien être avec toi, t'en fais pas, moi, j'y arriverai, parce que, comme j'ai toujours, je suis née handicapée, j'ai quand même toujours... Bon, je suis non-voyante, hein, donc j'ai quand même toujours plus su... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, entendre la vérité,
oui.
Même si après je pleurais, même si après n'importe, mais bon, voilà, vous oui. savez, quand vous avez des handicaps depuis toujours, ben, c'est ça, vous êtes peut-être plus fort quelque part. Mais en même temps, c'est ça que, voilà, mais en même temps, il me dit non, donc
oui.
Je ne le fais pas, évidemment.
Alors, je vais vous expliquer mon point de vue. Après, je ne pense pas que quelqu'un ait raison ou tort, ça va dépendre des situations. Moi, ce que je pense, c'est que si vous lui dites qu'elle est là, effectivement, définitivement, le problème, c'est que on a vu dans la maladie, elle va pas être capable de fixer cette information. Donc, le problème, c'est qu'elle risque de reposer la question à votre mari le lendemain et le surlendemain. Et donc, de répéter des situations de frustration où cette dame risque de ne pas comprendre. Ce qui est important, c'est que vous soyez présent auprès d'elle et qu'elle se sente pas délaissée. Laissez aussi le personnel soignant créer des liens affectifs avec elle. Ce qu'on va rechercher, c'est que petit à petit, elle se sente chez elle, là où elle se trouve. Et généralement, au bout de quelques semaines, quelques mois, les personnes finissent par ne plus demander à retrouver leur appartement.
Mais elle demande peut-être moins qu'avant, effectivement. Elle est là depuis le mois de juin, et mon mari me dit, il y a des moments où elle demande plus rien du tout. Et elle est déjà en train de bavarder, là, avec des gens. Oui, ça, oui. Hein,
on sait qu'elle a une bonne capacité d'adaptation, déjà, à être avec de nouvelles personnes dans un nouveau lieu. À partir du moment où elle se sentira en confiance avec les gens parmi lesquels elle se trouve, je pense que c'est une question qui va céder. Hein, vous serez plus confronté à cette question-là. Donc finalement, peut-être que le positionnement de ne pas répondre, c'est-à-dire il ne s'agit pas de lui mentir, il ne s'agit pas de lui dire tu vas retourner la semaine prochaine à la maison, hein. Mais d'être un peu, ça peut arriver, donc c'est pour ça que je précise, d'être un peu évasif sur le facteur temps, et puis voilà, d'être présent pour qu'elle se dise je suis là pour le moment, mais je suis pas délaissée, les enfants viennent me visiter, et puis les infirmières sont gentilles, elle peut se lier aussi d'amitié avec les autres résidents. Il y a combien de temps qu'elle est arrivée? Est-ce qu'il y a longtemps qu'elle est dans cette maison de retraite? Depuis le mois de juin, vous m'avez dit. Hein.
Ouais.
Oui. Ouais, donc bon, je pense que ça va se faire tout doucement. Mais effectivement, de lui dire qu'elle y sera définitivement, ça peut être violent et vous risquez de répéter en fait ce moment de violence. Donc c'est pas mal d'y aller en douceur. Quoi.
Mmh. Ah oui, d'accord.
Bon. J'espère que j'ai répondu
merci
à votre question.
Un grand merci Véronique
beaucoup,
pour votre question. Hein.
Oui, merci beaucoup. Aussi.
Et bon courage pour la suite. Au revoir.
Oui, au revoir. Merci.
Voilà, on arrive au terme de l'émission. Donc, est-ce que vous aimeriez dire des conseils pour nos auditeurs
Oui, peut-être quelques petits conseils pour conclure, hein. Bon, bah, pour rebondir effectivement sur ce que disait Véronique et puis voilà ce que j'ai pu évoquer ce matin. Souvent, on va conseiller de ne pas chercher à vouloir à tout prix réorienter la personne dans le présent. Et il ne s'agit pas non plus d'entretenir des éléments de mensonge, hein, mais simplement de pas forcément la ramener dans notre capacité à nous à raisonner, hein, puisqu'elle ne le peut plus. On va essayer aussi de repérer la demande implicite qui correspond souvent à un besoin précis, hein, d'essayer d'entendre ce que dit la personne en dehors de ses expressions par le comportement. On va s'intéresser beaucoup au langage non verbal, hein, regarder les regards, les mimiques, les gestes de la personne pour comprendre ce qui se passe pour elle et puis aussi pour se faire comprendre. Et continuer à communiquer avec elle sur ce mode-là, en y associant un toucher rassurant, prendre sa main, son bras, l'entourer de son épaule, voilà, lui masser les mains. Il y a souvent un rapport corporel qui sera apaisant, qui va permettre de diminuer l'anxiété. Voilà, juste voilà quelques petits conseils comme ça de manière d'être pour que voilà. On est dans cette maladie finalement complètement dans le moment présent. Hein, les éléments du passé proche n'existent plus vraiment. Par contre, on peut amener une qualité d'être ensemble maintenant et qui, à mon sens, aide beaucoup. Voilà, j'espère que vous aurez été intéressés par cette émission-là. Et donc voilà, j'ai pas encore le programme de lundi prochain, mais donc ce sera une nouvelle psychologue d'AP21 qui viendra partager avec vous des questions de psychologie. Merci à tous les
Merci
auditeurs, merci Sandrine
beaucoup, bonne
de votre
journée.
accueil.
Merci, à bientôt, hein.
Au revoir.
Au revoir.